Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous et de pouvoir reprendre en votre compagnie l'étude des religions, des institutions et de la société de la Rome antique. Le dernier cours avait été consacré, vous vous en rappelez peut-être, à la conception même qu'on pouvait se faire de la religion romaine et de la réponse que je voulais donner à certaines critiques émanant de chercheurs davantage inspirés par la théologie chrétienne que par l'histoire et l'anthropologie religieuse. Une conception qui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, a sa légitimité, à condition que ses tenants soient francs et acceptent de reconnaître les principes auxquels ils se réfèrent. Ma propre approche, qui est aussi celle d'une partie importante des historiens de la religion antique, prend clairement en compte l'altérité, la différence des anciens et s'appuie sur les méthodes qui sont celles de l'histoire, de la philologie et de l'anthropologie religieuse. Je laisserai cette année de côté les réflexions méthodologiques pour procéder à une enquête de terrain, sans abandonner pour autant la théorie elle-même, car je suis convaincu que c'est par des recherches concrètes, par l'étude des multiples détails qui composent les pratiques religieuses, que l'on peut réunir les éléments qui permettent d'élaborer une théorie. C'est l'accumulation et l'interprétation de ces observations minutieuses qui permettent seules de reconstruire des pans entiers de la religion des Romains et qui aboutissent à fonder la thèse que je défends avec un nombre non négligeable de mes collègues, une thèse qui proclame que la religion des anciens était différente de nos religions occidentales modernes et qu'elle se fondait notamment sur le ritualisme comme le font tant d'autres religions du monde, hier comme aujourd'hui. C'est cela que mes recherches essayent d'analyser et de prouver, en marchant en quelque sorte. Pour conduire cette analyse, je reviens à un sujet que nous avons abordé brièvement en 2002 et 2003 et que je n'avais pas encore épuisé. Les cours de ces années-là s'appelaient « Promenades religieuses dans la Rome antique ». Nous sommes partis du Capitole pour parcourir le Quirinal, l'Esquilin, la Via Appia, les quartiers du Testaccio et de l'Aventin, le Trastevere, en achevant notre promenade au bois sacré de Deadia sur la rive droite du Tibre, à environ 8 km de Rome. Nous sommes repartis l'année suivante de ce bois sacré pour remonter le Tibre, en passant par l'île Tibérine, parcourir le champ de Mars et la Via Flaminia, au nord de Rome, avant de revenir sur nos pas pour visiter le Cellius, l'Iséum du champ de Mars et le Forum Boarium. Il manquait à ces promenades un parcours dans les faubourgs de Rome, qui abritaient de nombreux lieux de culte proches et lointains. Nous y avions seulement mis le pied pour visiter le bois sacré de Deadia. Le temps manquait pour le faire et les années suivantes, j'ai ouvert avec vous d'autres dossiers. Mais je n'avais pas oublié le projet d'une visite menée dans les lieux de culte des faubourgs de Rome. C'est ce que nous ferons cette année. Je me proposais de reprendre la question sur laquelle je continuais de travailler, car je n'étais content ni de mes conclusions antérieures, ni des positions de mes collègues qui ont beaucoup écrit sur la question. Leur réflexion se place dans le prolongement du lexique de la topographie de la ville de Rome, publié entre 1993 et 2002. L'équipe de chercheurs réunie autour du premier lexique, de ce lexique-là, a publié en effet, entre 2002 et 2009, un deuxième lexique, un lexique du suburbium de la ville de Rome. Comme toujours, ces grandes entreprises font beaucoup avancer les choses, mais en même temps, elles continuent de véhiculer des théories souvent mal fondées et de scléroser ou de pétrifier certaines de ces théories. Ce sont mes réflexions concernant quelques-unes de ces théories sur le territoire de Rome que je souhaite vous présenter cette année. J'ai appelé ce cours « Le suburbium de Rome ». Recherche sur l'organisation religieuse du territoire de Rome. Ce titre pose trois questions avant tout. D'abord, il convient d'examiner le terme de suburbium. Que signifie-t-il ? La zone suburbaine de Rome est-elle une notion topographique ? ou bien est-ce une notion sociale et culturelle qui n'a pas de relation avec l'aspect topographique de la banlieue ? La deuxième question posée par ce titre concerne la notion de territoire de Rome, ce que les Romains appelaient la guerre, en grec chora. Quelle extension avait ce territoire ? Est-ce l'équivalent de la banlieue ? Ou bien est-ce une zone nettement plus vaste ? Vous vous rappellerez peut-être qu'en 2003-2004, je vous ai parlé de l'extension du Pomerium effectuée sous l'empereur Claude, vers 48 de notre ère. Le Pomerium est une limite juridique qui sépare l'intérieur de la ville de l'extérieur. Or, cette limite était susceptible d'être agrandie lorsque le territoire de Rome était agrandi. C'est ce que prétendait faire l'empereur Claude après la conquête de la Bretagne, c'est-à-dire de l'Angleterre actuelle. Une discussion se développa alors à Rome concernant la possibilité de cette modification. Les tenants du littéralisme déniaient en effet à Claude le droit d'augmenter le Pomerium et invoquaient le principe selon lequel le territoire de Rome, l'ager romanus, était un concept juridique et géographique précis qui correspondait à cette date à l'Italie. Or, la Bretagne, la Grande-Bretagne, était située à l'extérieur de l'Italie, d'où la discussion. Pour notre propos, cette discussion établit qu'au 1er siècle de notre ère, le territoire de Rome comprenait toute l'Italie. Est-ce donc l'Italie tout entière que nous devons étudier si nous nous interrogeons sur le territoire de Rome, sur la banlieue de Rome en quelque sorte ? Ou bien faut-il s'intéresser à une partie plus réduite de l'Italie ? À ces deux questions s'en ajoute une troisième. Pour analyser les notions de suburbium et de territoire romain, je compte utiliser et étudier l'organisation religieuse du territoire. Nous visiterons donc les lieux de culte situés à l'extérieur de Rome et essayerons de déchiffrer leur signification et leur rôle dans la construction juridique et topographique complexe que sont le suburbium et l'ager romanus. C'est sur ce plan que nous retrouverons la question du ritualisme romain. Car si nous avons raison de considérer que la religion des Romains est ritualiste, tous les éléments de la pratique cultuelle comportent une signification. C'est l'ensemble de ces traits concrets et la logique de ce concret qui forment ce que nous appelons la religion des Romains. Si le réseau des lieux de culte extra-urbains répond à cette attente, nous pourrons d'ailleurs considérer que nous ajoutons une preuve supplémentaire en faveur de ce ritualisme romain. Commençons. Ah, décidément. Je ne suis pas encore entraîné. Là, je suis très loin. Attendez que je revienne à mes moutons. Voilà. Commençons donc par examiner ces trois questions que je viens d'évoquer. Pour nous, la banlieue est une notion à la fois topographique, juridique et sociale. Nos banlieues sont généralement des communes et des circonscriptions électorales indépendantes qui ont des limites précises. En outre, nous attachons à ces banlieues des connotations sociales particulières qui sont liées à leur histoire. Il y a les banlieues bourgeoises, les banlieues commerciales, les banlieues ouvrières, les banlieues à problèmes et ainsi de suite. À Rome, les choses étaient très différentes. D'abord, le terme « suburbium » n'existe pratiquement pas dans la littérature latine. Un passage des Philippiques de Cicéron et un extrait des Scolies aux Satyres de Juvénal constituent pratiquement les seules occurrences du terme neutre « suburbium », ce qui tente à montrer que l'espace suburbain n'est pas une notion clairement définie. Parfois, les Romains emploient le terme abstrait de suburbanitas, banlieue, suburbanité, enfin vous voyez, c'est un terme déjà très élaboré. Ils utilisent en revanche communément l'adjectif suburbanus pour qualifier des villas, des domaines, praedium, ou le territoire, ager suburbanus, territoire suburbain. Les emplois se réfèrent en outre davantage à une attitude mentale de l'élite qu'à un espace précis. Il est en effet très difficile pour nous de préciser où s'arrête la ville de Rome, car il existe plusieurs limites, en fait, de la Rome antique, qui ne se recouvrent pas entièrement avec le concept de banlieue ou de suburbium. D'autre part, il est également difficile de préciser jusqu'où va le suburbium, alors que chez nous, ville et banlieue reçoivent une définition topographique précise. Ces données sont plus simples dans la plupart des autres cités du monde romain, mais même dans leur cas, le concept de suburbium n'est jamais simple à comprendre. Tout le problème est là. Et nous verrons ces questions en détail. Continuons pour l'instant avec la notion du suburbium. Est suburbain quelque chose qui est lié, d'une manière ou d'une autre, à la ville et rempli, comme l'écrit Ted Champlin, vous avez le livre en haut, l'article en haut, l'une des fonctions de la ville. Et dans l'Antiquité, l'espace urbain était compris comme une partie de la ville. Inutile de dire qu'il n'y existait pas de communes indépendantes. À l'époque républicaine, les 35 tribus qui regroupaient le corps civique romain, et comme cette carte vous le montre, si j'arrive à l'afficher, ce qui n'est pas évident, voilà. Vous voyez ces noms, Voltinia, Lemonia, Camilia, c'est des noms de tribus. Donc, c'est à l'époque antérieure à notre ère, les 35 tribus qui regroupaient le corps civique romain en vue des élections et du vote des lois se répartissaient en majorité sur l'espace suburbain. Mais ces circonscriptions étaient précisément celles qui déterminaient la vie politique de la ville et de l'État romain. Ce n'est pas des circonscriptions rurales du tout. Quant aux qualités de l'espace suburbain, nos sources nous apprennent que les Romains lui attribuaient les qualités de l'agréable, la moenitas, du loisir, l'otium, et de la salubritas, la qualité d'espace sain, qui s'opposaient à l'agressivité et l'insalubrité de la vie urbaine, ainsi qu'aux activités publiques et professionnelles, le travail en quelque sorte. Cet espace possédait donc les mêmes qualités morales que les habitants des villes modernes attachent, par exemple, à la campagne. Les maisons urbaines, à Rome, étaient relativement petites. À en croire Suétone, quand il voulait être seul et ne pas être interrompu dans une activité, même l'empereur Auguste devait se retirer sur la terrasse de sa maison sur le Palatin, ou alors se rendre carrément dans une propriété suburbaine appartenant à lui-même ou à l'un de ses affranchis. L'espace suburbain était en effet le lieu de retraite privé qui permettait de se reposer, de travailler et de lire en paix. De ce fait, la campagne romaine était remplie de villas où l'élite se retirait et recevait, loin des tracas de Rome et de la vie publique. Cicéron s'y rend pour lire, écrire et discuter avec des voisins et des visiteurs. Beaucoup de ses traités mettent en scène des discussions qu'il aurait menées avec des amis et des visiteurs dans l'une de ses villas. On a pu identifier progressivement environ 133 villas dans la seule zone de Tivoli, au nord-est de Rome, 34 dans la vallée supérieure et moyenne de l'Agno, au nord de Rome, et 153 dans le secteur de Prénest, que nous nommons aujourd'hui Palestrina, vers l'est. Vous aurez noté que les secteurs que j'ai cités dépassent déjà largement ce que nous pourrions considérer comme la banlieue de Rome, même aujourd'hui. Pourtant, il est toujours question chez les Romains d'espace suburbain à propos de ces lieux. Ces villas passaient de main en main. Cicéron acheta vers 68 avant notre ère à Lucius Vettius une villa située à Tusculum. Vettius lui-même l'avait achetée au dictateur Sylla, dans les années 80 avant notre ère, qui l'avait lui-même acquise de Quintus Lutatius Catulus, le consul de 102 avant notre ère, vainqueur avec Marius des Cimbres en 101 avant notre ère. En aucun cas, le suburbium n'était donc un espace destiné à l'habitation des masses. Non seulement c'était un espace luxueux, mais les masses elles-mêmes s'entassaient au centre des villes, où elles étaient proches de leur travail, des lieux de distribution alimentaire éventuels, des spectacles et de la vie politique. Pour posséder un bien en banlieue, il convenait de disposer de moyens de transport efficaces qui permettaient de rejoindre en temps voulu la ville, autrement dit, il fallait être aisé. Pour donner une idée de la richesse de toutes ces propriétés du côté luxueux de la campagne de Rome, Ted Champlin, dont vous avez vu l'article plus haut, souligne qu'une grande partie des œuvres d'art antiques qui sont aujourd'hui exposées dans les musées de Rome proviennent de l'espace suburbain. Elles ont été exhumées au cours des siècles passés dans les ruines de ces villas suburbaines qui comportaient des galeries d'œuvres d'art tout aussi bien que des parcs plantés d'essences rares. La campagne romaine était donc relativement vide, mais ce n'était pas du tout un désert. Cette richesse agraire est encore attestée du XIe au XIVe siècle au moins, comme l'ouvrage de Pierre Toubert l'a rappelé. Mais un peu plus tard, quand le président Desbrosses se rend au XVIIIe siècle de Rome à Naples, le Latium est déjà un désert inhospitalier. Desbrosses prétend que cet état du paysage est dû au pape réformateur Sixte Quint, pape de 1585 à 1590, ce pape qui avait détruit par des taxes les cultures du Latium, cultures céréalières surtout, afin de diminuer le pouvoir de l'aristocratie terrienne romaine. La conséquence en a été la désertification et le développement de marécages insalubres qui ont perduré jusqu'en plein XXe siècle. Tel n'était pas du tout le paysage du Latium romain. Il n'y avait peut-être pas d'occupation dense par des réseaux de petites fermes, mais il y existait une foule de grands domaines, très souvent luxueux, qui faisaient du Latium et de la banlieue de Rome un grand jardin. L'espace suburbain antique de Rome correspond peut-être à celui de la Rome de la Renaissance, antérieur à Sixte Quint en tout cas, ou aux environs de Paris et de Versailles sous l'Ancien Régime. Mais il n'a rien à voir avec les modernes suburbs, comme disent les Américains. Cette particularité ne perturbe toutefois pas le deuxième aspect de notre enquête, qui porte sur l'existence des lieux de culte dispersés dans l'espace suburbain. Celui-ci comprenait précisément des villas luxueuses, dont les esclaves exploitaient éventuellement les terres qui y étaient attachées, et ils comprenaient aussi des lieux de culte. De ce point de vue également, notre perception des lieux de culte situés en banlieue diffère grandement de celle des Romains. Nous serions très surpris si le cardinal archevêque de Paris se rendait régulièrement en banlieue pour y célébrer le culte dans tel ou tel sanctuaire. Ce serait assez incongru. Mais revenons encore à la notion même de suburbium. J'ai dit tout à l'heure que l'on ne savait pas très bien où fixer le début et la fin de l'espace suburbain romain. Les chercheurs modernes citent souvent plusieurs limites antiques qui avaient toutes une existence. Il y avait d'abord la ligne pomériale qui entourait l'intérieur de la ville et délimitait l'espace où l'on pouvait créer des lieux collectifs après la consultation de Jupiter par une prise d'auspice et où l'on pouvait en outre dédier des temples. Vous voyez, je vous ai fait cette carte où vous avez trois états du pomerium. En jaune, vous avez les bornes de Claude qui délimitent une zone déjà assez grande. Puis, il y a des zones encore plus étendues avec du bleu qui vous témoigne de réfection. Et puis des contrôles aussi de Vespasien. Vous voyez que ça correspond quand même progressivement à une zone assez grande. Vous vous rappellerez peut-être qu'en 2003-2004, nous avions examiné ces bornes, plusieurs d'entre elles en tout cas, qui marquaient la limite pomériale et qui ont été découvertes en place dans Rome et qui vous marquaient le passage de cette limite. À partir d'une certaine limite, le pomerium correspondait au tracé des remparts, qui sont généralement datés du VIe siècle avant notre ère. On dit le rempart de Servius Tullius. C'est un vieux rempart et qui correspond en gros au Pomerium à l'époque antérieure à notre ère. Plus tard, bien sûr, même cette limite juridique entre l'intérieur et l'extérieur a dépassé cette limite, comme la carte précédente l'a montré. Mais il existait une deuxième limite de la ville qui se situait à 1 mile du Pomerium. Cette limite était celle qui marquait la fin du pouvoir civil des magistrats. L'imperium domi, c'est-à-dire le pouvoir de commandement civil, est le début de la zone, c'est aussi la marque du début de la zone qui tombait sous le pouvoir militaire, l'imperium militiae des magistrats, c'est-à-dire le pouvoir aux armées, littéralement. Et cette fois-ci, les magistrats avaient un pouvoir absolu, sans appel. Ils pouvaient mettre à mort par jugement immédiat et sans appel. C'est ce qu'on appelle l'imperium, le pouvoir de commandement à l'extérieur, militiae, aux armées. C'est à cet endroit, au premier mule aussi, que les consuls ou proconsuls, qui sont les messieurs qui ont ces pouvoirs, qui partaient pour leur province, faisaient insérer dans leurs faisceaux, les faisceaux que portaient les licteurs devant eux comme signe de leur pouvoir répressif, qui à l'intérieur de Rome n'étaient que des faisceaux de bâtons pour battre quelqu'un qui résiste aux magistrats et qu'il veut punir. Ils faisaient insérer donc ces proconsuls et consuls à cet endroit dans les faisceaux les haches, qui servaient à des fins très précises et qui symbolisaient leur pouvoir absolu qui commençait à ce moment-là. C'est à partir de cette limite encore qu'un magistrat supérieur, ça ne vous étonnera guère, avait le droit de condamner à mort et d'exécuter un citoyen romain sans aucune possibilité d'appel. À l'intérieur de la limite du premier mille, entre le premier mille et le pomerium, les jugements des magistrats, c'est-à-dire les consuls, les préteurs, les édiles, étaient en revanche soumis encore à l'appel. Autrement dit, leur juridiction civile s'arrêtait au premier mille. Et là, c'est une extension, vous voyez, par rapport aux limites précédentes. C'est là aussi que cessaient les auspices, auspicia, le droit de consulter les oiseaux, comme on dit, de consulter de Jupiter. C'est là que cessaient les auspices urbains par lesquels les magistrats consultaient Jupiter sur le bien fondé des décisions prises dans la ville. Et le pouvoir de protection et d'opposition des tribuns de la plèbe, quant à lui, allait jusqu'au pomerium et aux anciennes murailles, mais pas au-delà. Oui, on peut continuer. Mais pas au-delà. En 30 avant notre ère, à propos de la puissance tribunicienne d'Auguste, c'est un des pouvoirs que le futur Auguste reçut à ce moment-là, l'historien Cassius Dion précisait qu'elle s'étendait jusqu'au premier mille, un privilège qu'aucun tribun de la plèbe n'aurait encore possédé. En outre, aucun sénateur romain ne devait habiter au-delà de cette distance de Rome. Ils devaient avoir leur maison à l'intérieur du premier mille. Enfin, on trouvait également sur cette limite du premier mille un certain nombre de temples publics, comme pour signaler cette frontière. Et vous imaginez qu'on les parcourra. Jusqu'à présent, aucune borne de la limite du premier mille n'est connue. Elle n'existe que dans ses pratiques et sous forme de monuments, si vous voulez. Les juristes romains, quant à eux, mentionnent une autre frontière entre ville et espace suburbain. L'espace continu, les continentia tecta, littéralement les toits continus. Marcellus, un juriste du 1er siècle, du 2e siècle de notre ère, cite un autre juriste qui écrivait au 1er siècle avant notre ère, Alphénus, d'après laquelle la ville de Rome est à la fois l'espace qui est entouré de la muraille et la zone dans laquelle les toits sont continus. Les habitats sont continus ou l'habitat continue en quelque sorte. Le juriste Paul précise dans le premier tiers du IIIe siècle de notre ère, je cite, « Si l'on dit « provisions qui sont à Rome », est-ce que cela doit désigner ce qui se trouve à l'intérieur de l'espace construit ou bien seulement ce qui se trouve à l'intérieur de la muraille. Comprenez le pomerium. Effectivement, presque toutes les villes sont contenues par la muraille, par une muraille. Rome, au contraire, l'est par la surface bâtie. Si les bâtiments se trouvent à l'extérieur de Rome, ce sera quand même Rome. Et même s'il s'agit de jardins liés à la ville, ce sera pareil. Donc pour les juristes, la ville cesserait là où il n'y a plus d'édifice. Mais les juristes discutaient dans le détail et ils concluaient que les horties, les jardins, ces résidences de luxe situées à l'extérieur des murs et des espaces construits, appartenaient malgré tout également à la ville. Pour Pline l'Ancien également, en tout cas, la limite extrême de la ville se trouvait à un peu moins de 3 km du milliaire d'or du Forum romain. En estimant la longueur additionnée de toutes les grandes rues de Rome, c'est pour faire un peu le total de toutes les rues qu'il peut y avoir dans Rome, c'est une sorte de chiffre merveilleux, n'est-ce pas, pour l'époque, il écrit « Si l'on fait courir la mesure à partir du milliaire érigé à l'extrémité du Forum romain, c'est près de l'arc de Septime Sévère actuel. Donc, si l'on mesure à partir du milliaire érigé à l'extrémité du Forum romain jusqu'à chacune des portes de Rome qui sont actuellement, écrit-il, au nombre de 37, nous ne comptons qu'une fois chacune des 12 portes doubles et nous exclurons 7 des anciennes portes qui ont cessé d'exister, donc 37 portes, les dimensions de la ville font en ligne un total de 20 756 pas. Mais jusqu'aux derniers immeubles, y compris le camp des prétoriens, en partant du premier milliaire et en traversant les quartiers de la ville, la longueur de toutes ces rues atteint un peu plus de 60 000. Mais ce n'est pas encore tout. Il existait également une limite douanière qui n'est attestée que par ces trois bornes au IIe siècle de notre ère. En témoignent ces trois bornes qui ont été dressées pour mettre un terme au désaccord entre commerçants et fermiers de l'impôt sur les marchandises et aliments importés à Rome. Cette taxe remonterait, d'après l'existence, les inscriptions elles-mêmes, comme vous voyez, datent de Caracalla, de Marc Aurèle, de Commode, et c'est encore Marc Aurèle et l'autre aussi, je crois. Donc, c'est la fin du dernier quart du deuxième siècle de notre ère. Mais, d'après les spécialistes, l'inscription qui mentionne une vieille loi pourrait être une règle qui remonte à la censure de Vespasien et de Titus en 74 de notre ère. Cette limite correspond à peu près, si on en juge par l'endroit où ont été trouvées ces inscriptions, à peu près aux murailles auréliennes, elles-mêmes construites à proximité de la limite du premier mille que nous avons déjà évoqué. Donc si vous voyez à Rome, aujourd'hui, les murailles auréliennes en briques, vous êtes à peu près partout sur la limite, vous voyez, sur la limite du premier mille. Vous voyez comment ça s'est... C'est une deuxième muraille qui a doublé la vieille muraille républicaine. Rome est un sédiment séculaire et millénaire de modifications. Enfin, mais ce n'est pas encore fini, depuis au moins Wilhelm Becker et aussi Wilhelm Kubitschek, les archéologues et historiens modernes ont reconstruit une limite plus lointaine entre les 4e et 6e mille qui représenterait, alors cette fois-ci, vraiment la frontière de l'Ager Romanus Anticus, le territoire antique de Rome, et qui remonterait, suivant les auteurs, jusqu'au 6e ou même au 8e siècle avant notre ère. Car quand on parle d'une ville antique, il ne faut jamais oublier qu'elle possède toujours un territoire, Ager, qui fait partie de la cité, même s'il est voué à l'agriculture. Nous avons vu qu'à Rome, cette Ager était parsemée de jardins et de villas. Le terme de Ager Romanus Anticus lui-même est hérité du juriste Trebatius, qui écrivit au cours de la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère, et qui est cité par le commentateur de Servius en marge de l'Énéide de Virgile. Donc Servius qui, au 5e siècle, 4e, 5e siècle, commente l'Énéide de Virgile, essaye d'expliquer le terme « antiquus ager » employé par Virgile au livre 11 de l'Énéide, vers 316. Et Servius commente que le terme « antiquus » employé par Virgile peut être compris comme « noble », c'est une première interprétation, ou bien en suivant Trébatius, qui écrit dans le livre 7 de son traité sur les obligations religieuses, les bois sacrés qui se trouvent sur les territoires, sous-entendez des cités, qui ont été installées par une décision collective, eh bien, il faut les fréquenter et les conserver avec le même respect que les autres bois sacrés qui se trouvent sur le territoire antique. Trébatius pousse à comprendre le terme de Virgile comme le territoire antique de Rome. Donc, la deuxième explication est historique et elle désignerait donc le territoire qui entourait la ville de Rome dans l'Antiquité, par rapport aux Romains eux-mêmes, territoire archaïque, si vous voulez. Indépendamment de ces définitions et règles juridiques, Heinrich Kiepert a placé sur sa carte la limite du territoire propre de Rome. Je vous donne une meilleure image, parce que la précédente est assez grande, donc difficile à photographier. Heinrich Kiepert, qui a été suivi d'ailleurs par Fausto Zevi, place sur sa carte la limite du territoire propre de Rome, qui équivaut à ce territoire antique de Rome. Il la place vers le début de notre ère, aux environs du 9e mille. Donc les murailles de Rome, 1er mille, 5e mille, 6e mille. Maintenant, sous l'Empire, on place déjà cette limite au 9e mille. Cette proposition repose sur l'existence, à partir de cette limite, de cités qui possédaient l'autonomie politico-administrative et aussi celle des monts Sabins. Il s'agit de toutes ces cités qui se trouvent ici, Fidène, Gabi, il y a Tivoli, Préneste, et tout leur territoire arrivait quelque part. Il faut un minimum de territoire pour une cité, même quand elle est conquise, elle garde toujours son territoire, de telle sorte qu'on dit, ben voilà, si on trace cette limite, eh bien, avec les cités qui ont été conquises et intégrées, on arrive à cela. Et puis ici, vous avez les monts Sabins. Et puis par là, c'est les monts Albins. Donc ça formerait la limite naturelle, en quelque sorte, de Rome, en tout cas vers du nord jusqu'au sud, pas vers l'ouest de l'Italie centrale. L'inventaire, donc c'est le trait vert sur la carte qui représenterait cette limite sous l'Empire, au début de notre ère. L'inventaire rapide que je viens de faire des différentes règles et théories, antiques ou modernes, démontre qu'il n'existait pas de limite très nette autour de Rome pour délimiter l'intérieur de l'extérieur ou la limite de la cité-État Rome dans son intimité par rapport à ce qui est conquête postérieure. Ce flou peut être dû à l'aplatissement chronologique des données qui consiste à rejeter dans le passé le plus lointain ce qui est en fait le résultat d'une longue tradition, d'une longue évolution. Il est également vraisemblable que l'incertitude de la limite de Rome est due au fait que cette limite sépare le même du même. Le territoire proprement urbain se distingue en effet de l'espace extra-urbain par sa destination économique, architecturale ou sociale, mais sa substance n'est pas différente de celle de la ville. Le suburbium n'est pas une autre entité politique et juridique. Tout appartient à la cité de Rome. Tout est Rome, comme l'un des textes que nous avons cités l'a dit. Or, comme pour compliquer la question, nous possédons encore d'autres données qui attestent que l'espace urbain allait en fait nettement plus loin que la limite du 6e mille et même du 9e mille. La conquête progressive du Latium, de la Sabine ou de l'Étrurie qui entoure Rome et qui furent intégrés dans l'Ager Romanus, rendait la situation extrêmement complexe pour nous. Ainsi, les cités ou territoires de Saxa-Rubra, Fidène, Nomentum, Ficulea, Tivoli, Tibur, Gabi, Préneste, Tusculum, Bovillae, Arici, vous entendrez parler de tous ces lieux, Velitrae, Velletri, Lanuvium ou Lavinium furent également, ils sont nettement au-delà de la limite, souvent des 9000 même, hein, mais ils furent appelés par les sources antiques suburbains, même s'il s'agissait encore, sous l'Empire romain, de communautés, enfin de cités autonomes avec leur territoire. Mais on était dans la banlieue de Rome. Ainsi, Martial, le poète Martial, qui écrivait sous Domitien à la fin du 1er siècle de notre ère, situe-t-il Fidène et le site de Saxa Rubra sub urbe, dans l'espace suburbain. Pline, quant à lui, parle de Nomentum comme d'un lieu suburbain, Nomentum au nord de Rome. Cicéron place Ficulea dans la même zone. Gabi, toutes ces cités, je vous les ai montrées. Hein. Gabi intervient dans les textes des géomètres, toujours dans le suburbain. Arici, Lavinium, Lanuvium, Tivoli et Préneste, Palestrina, sont situés dans le même espace par Ovide, dans ce passage des Fastes, que je n'ai pas transcrit en entier. Tusculum est suburbaine d'après Cicéron. Encore de même que Velletri d'après Suétone. Un autre passage de Martial étend la notion jusqu'à Antium, Anzio, et Pline annexe même dans l'espace suburbain les marais pontins du côté de Terracina. Qui sont situés entre Velletri, Ostie et Terracina. Donc on arrive déjà aux limites de la Campanie. Je répète pour ceux qui viendraient pour la première fois que tous ces textes, ces références, vous les trouvez sur mon site. Chaque semaine, vous pouvez les télécharger, tout ce que vous voulez, et les imprimer, les lire, tout ce que vous voulez. Je m'efforce de les mettre sur le site avant le début du cours. Autant dire, avec tout ce que j'ai parcouru rapidement avec vous, autant dire que le concept du suburbain est flexible, suivant l'époque et le contexte. Nul ne s'étonnera donc que depuis au moins le IIe siècle de notre ère, le centième millière marquait la limite du pouvoir judiciaire du préfet de la ville, qui s'étendait sur ce qu'on appelait la circonscription judiciaire urbaine, la urbana dioicesis. De sorte qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, Symmaque puisse écrire que Spolète était suburbaine. Spolète est notre banlieue, suburbanitas nostra est. Vous voyez le terme tardif pour suburbium. Donc on a l'impression que ça s'éloigne en permanence et nous ne sommes pas loin de devoir confesser avec Denis d'Halicarnasse au début de notre ère que nous ignorons en fait où se trouve la limite de Rome, parce qu'elle nous échappe toujours, dès que nous commençons à chercher. Après avoir raconté l'annexion à la ville originelle de certains quartiers comme le Viminal et l'Esquilin, et noté que la limite de la ville n'a pas pu être religieusement étendue au-delà de ses limites, il faut supposer que Denis parle ici en fait du Pomerium, mais qu'elle s'étendait librement au-delà des murs primitifs, eh bien, après avoir fait tout cela, Denis conclut que si quelqu'un désire estimer la taille de Rome en regardant ses faubourgs, il sera nécessairement induit en erreur par la recherche d'un critère efficace pour déterminer jusqu'à quel point c'est encore la ville et où ce n'est plus la ville. La ville est si étroitement unie à la campagne qu'elle donne l'impression d'une ville qui s'étend indéfiniment. On ne saurait mieux dire. Une deuxième difficulté, donc première difficulté, vous verrez que nous pataugerons dans ce genre de problème tout au long de ces cours, jusqu'au moment où on commencera à peu près à voir clair. Une deuxième question s'ajoute aux précédentes. Au cours du IIIe siècle ou du début du IIe siècle avant notre ère, Rome avait conquis toute l'Italie. Vous voyez, ça va très vite. Or, la terre conquise faisait partie de l'Ager Romanus. Même si les cités et les communautés étrangères installées sur le sol italien pouvaient continuer à exister. Et cet Ager Romanus-là est distinct de l'Ager Romanus proprement dit, apprenant intimement à la cité État de Rome, comme Mommsen l'a dit. Il y a la conquête de Rome, ce vaste territoire romain qui se constitue et qui est propriété du peuple romain, et il y a cet espace intime dont je vais vous parler, qui est la ville plus son territoire environnant, mais qui semble étonnamment flexible, qui constitue l'autre territoire romain, comme Mommsen, dans son droit public, l'a déjà dit. On constate donc qu'il ne saurait y avoir une réponse simple à la question posée. Quelle est la différence entre les limites que j'ai énumérées ? Existent-elles en même temps ou sont-elles des fossiles historiques ? Et dans ce cas, quelle était leur signification respective ? Quelle était la relation qui existait entre le grand espace suburbain et le territoire propre de Rome ? Y avait-il une différence entre la zone des 100 000 de Rome et le reste de l'Italie ? Dans la discussion d'un colloque récent qui a été publié sur le suburbium dans le mouvement de ces lexiques dont je vous ai parlé, notre collègue italien Filippo Quarelli a résumé très justement l'ensemble du problème. Qu'est-ce que le suburbium de Rome, dit-il, parce qu'au cours de ce colloque, les collègues ont eu les mêmes discussions un peu étranges que je viens d'avoir avec vous. Pensez-vous vraiment qu'au 5e siècle avant et au 2e siècle après Jésus-Christ, le suburbium de Rome, même comme espace, soit la même chose ? La question que demande Quarelli. Comment ferons-nous, dit-il ? Prendrons-nous un territoire standard, situé, je ne sais, à l'intérieur du raccordo annulare, ça nous mettrait vers le 8e mille de Rome à peu près. Vous avez dû prendre le raccordo annulare. Il n'existe pas de limite du suburbium antique de Rome, dit-il. Donc, il dit, comme Denis d'Halicarnasse, cette limite n'existe pas. Par exemple, il est clairement apparu au récent colloque organisé par l'école britannique qu'entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ et l'Antiquité tardive, le suburbium de Rome correspond à toute la vallée du Tibre jusqu'à ses sources. Et nous sommes alors à 70 km à l'intérieur des terres. Alors que, et là il se réfère à la discussion, ne serait pas suburbium une localité située à 10 km de Rome. La raison en est évidente, elle est due à la présence du Tibre. C'est-à-dire là, on voit que c'est suivant la circonstance, suivant l'endroit où on est, le territoire de Rome, le suburbium, la banlieue peut être très différente. Il y a les besoins de Rome économiques, la vallée du Tibre qui est une magnifique autoroute, n'est-ce pas, vers Rome, et puis toute la richesse des environs du fleuve, richesse agricole, briques, tuiles, etc. Tout cela va à Rome. Et donc, il n'est pas étonnant que le territoire de Rome s'étende jusqu'à 70 km dans certains cas. Mais vous voyez que ça met en évidence la flexibilité de cette notion que nous aurons toujours à prendre en compte. Nous devrons reconsidérer les différentes limites plus ou moins proches de la ville pour tenter de les apprécier et de les dater plus précisément. Auparavant, il convient toutefois de considérer le troisième élément du sujet, l'organisation religieuse du territoire. Que faut-il entendre par là ? Nous sommes habitués à ce qu'il y ait des églises en ville, comme dans la banlieue ou à la campagne. Et il ne nous viendrait pas à l'idée d'y voir des différences par rapport aux églises de la ville. L'organisation paroissiale précise, mise à part, la seule différence que l'on peut déceler entre les églises de la ville et celles qui sont situées en banlieue à la campagne consiste dans le fait que depuis l'époque de la Réforme, et notamment sous l'impulsion de la Compagnie de Jésus, certains grands lieux de culte, que les spécialistes appellent d'ailleurs sanctuaires, c'est le vocabulaire catholique notamment précis, se trouvent également placés sous la responsabilité de congrégations religieuses, comme par exemple les franciscains ou les capucins. L'Église a longtemps regardé avec méfiance ces sanctuaires qui attirent de larges foules. Le droit canon de l'Église catholique de l'année 1917 ne les mentionne pas encore. Il n'existe pas pour le Vatican. Il faudra attendre l'année 1956 pour les voir mentionnés dans une lettre de la Congrégation romaine des séminaires et des universités. Et lors de la publication du nouveau code de droit canonique de l'Église en 1983, les sanctuaires, les sanctuaires sont définis pour la première fois comme, je cite, « l'Église ou autre lieu sacré où les fidèles, pour un motif particulier de piété, se rendent nombreux en pèlerinage avec l'approbation du titulaire du lieu », en précisant toutefois que cette approbation peut seulement être permissive. On voit toute une frilosité encore à reconnaître ces sanctuaires de pèlerinage. Il y a toujours eu en fait des conflits entre ces grands sanctuaires de campagne et les évêques, dans le contexte plus large de mouvements réformateurs qui ont pu traverser le catholicisme. Les évêques peuvent estimer que leur pouvoir est en effet diminué par ces sanctuaires souvent monumentaux et riches qui attirent des foules énormes de pèlerins, des sanctuaires dont on vante les mérites et les miracles qui s'y déroulent et qui inquiètent de ce fait aussi les tenants de l'orthodoxie. La tentation est grande chez les historiens d'assimiler les lieux de cultes antiques qui parsemaient le territoire des cités, et notamment celui de Rome, à des sanctuaires miraculeux à pèlerinage, suivant le modèle de ces sanctuaires catholiques. Il y a quelques années, nous avons parlé, vous vous rappellerez sans doute, dans ce cours, des sanctuaires des eaux, des sources, qui sont parfois imaginés à l'identique des sanctuaires à miracles chrétiens, et reçoivent alors des connotations très chrétiennes, d'autant plus facilement qu'il arrive que des lieux de culte chrétiens utilisent les mêmes emplacements dans le paysage que les temples antiques. Il convient également de ne pas confondre les lieux de culte antiques avec les églises paroissiales, beaucoup plus modestes, installées sur le territoire ou dans la banlieue. La plupart des églises de banlieue ou de la campagne sont des lieux de culte où se célèbre exactement le même culte chrétien qu'en ville, et qui sont dans ce cas avant tout destinés à la communauté locale de banlieue, de la campagne, pour lui permettre d'avoir accès facilement au même culte que les citadins. Ça, c'est pour nous le paysage des lieux de culte en banlieue et à la campagne. Vous voyez que c'est quelque chose de très spécifique. Avant d'aller plus loin, nous devons donc nous demander ce que cela signifie pour les Romains de construire des lieux de culte à la campagne. S'agit-il de donner à tous les citoyens la possibilité d'assister commodément au culte régulier par l'intermédiaire d'églises rurales, en quelque sorte? La multiplication des lieux de culte répond-elle à la nécessité pour tous les fidèles d'accomplir leurs devoirs religieux, ce qui est le cas dans le christianisme? Ou bien s'agit-il de sanctuaires qui expriment l'œuvre de groupes religieux qui construisent ces lieux plus ou moins contre l'Église officielle? C'est-à-dire, si je m'exprime en termes non chrétiens, ces lieux de culte sont-ils construits par la population locale, rurale, contre celle de la ville, en accord avec ses propres représentations religieuses, qui seraient éventuellement diverses de celles des citadins? Autant de questions qui se pose à l'historien aujourd'hui, qui essaye de comprendre la raison et la nature des lieux de culte installés à la campagne, dans l'espace suburbain d'une ville antique. Le problème dépasse bien entendu Rome et son suburbium, mais vous comprendrez que pour des raisons de temps, je me limiterai à ce cas. Que faut-il alors appeler organisation religieuse du territoire? Dans son commentaire à l'édit du prêteur, c'est-à-dire un édit qui était pris chaque année par lequel le prêteur précisait les principes selon lesquels il rendrait la justice, le juriste Ulpien définit au début du IIIe siècle de notre ère, entre autres lieux publics, les loca sacra, les lieux sacrés. Il écrit « Les lieux sacrés sont ceux qui ont été dédiés au nom du peuple. Alors la phrase qui nous intéresse, c'est « qu'ils soient dans la ville ou sur le territoire ». Sive in civitate sint, sive in agro. Vous serez peut-être surpris de lire que Ulpien emploie dans ce passage civitas au sens de ville et non en tant qu'état, civitas, par opposition cette fois-ci à la guerre, alors que normalement le terme de civitas, d'où vient notre terme de cité, comprend la ville et le territoire. Donc si vous êtes surpris, eh bien, je vous rappelle que cet usage est attesté chez d'autres juristes, chez Paul, par exemple, ou Macaire. Les Romains construiraient donc des lieux de culte en ville comme à la campagne. Le lecteur moderne peut ressentir une certaine perplexité, d'après ce que je viens de dire, devant cette déclaration. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que des lieux sacrés soient construits en ville et à la campagne ? En lisant toutefois de plus près le passage d'Ulpien, nous lisons qu'il s'agit de lieux de culte dédiés au nom du peuple romain. Les sanctuaires dont il est question ne sont donc pas n'importe quel lieu de culte. Ce sont ceux du peuple romain, ceux que les anciens appellent les sanctuaires publics, les sanctuaires de l'État romain, qui ne sont en principe pas des officines secondaires ou privées, mais des lieux de culte primaires, qui ont le même statut que les temples de la ville. Ça, c'est un élément très important. Nous verrons que les géomètres aussi situent les lieux sacrés, au sens juridique plein, dans le territoire de Rome et des cités. Les lieux sacrés sont par conséquent tous les temples, espaces, bois sacrés, sources et autres monuments qui sont dédiés suivant les coutumes romaines. Cela signifie qu'ils ont été créés en vertu de l'injonction du peuple ou du Sénat par un magistrat possédant l'imperium supérieur, c'est-à-dire... Je ne sais pas ce qui se passe encore là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un sanctuaire public qui est sacré, qui est consacré avec l'autorisation du peuple romain en vertu d'une loi ou d'un senatus consulte, ou alors simplement par un magistrat qui a le pouvoir supérieur. C'est-à-dire qui a l'autorité pleine de gouverner. Et c'est en général le consul ou sous l'Empire, l'empereur. Tout ce qui a été dédié de façon régulière devient ainsi sacré et inaliénable. En revanche, les espaces et les objets afférents à ce lieu sacré et qui n'ont pas été dédiés selon ce rite ne sont pas sacrés. Ils sont donc aliénables et peuvent de ce fait être détruits, vendus, occupés. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être que le regretté Yann Thomas était venu débattre de cette question avec nous au séminaire de 2008. Telles étaient les caractéristiques, en tout cas, de ce que nous appelons en histoire romaine, un lieu de culte public. Et public, j'insiste encore sur ce terme, possède ici le sens d'appartenant au peuple romain et créé sur son ordre. Mais bien entendu, ces définitions n'excluent nullement qu'il existe des lieux non publics, autrement dit privés, ou que des sanctuaires publics comprennent des objets ou des bâtiments même qui ne possèdent pas de caractère public. Je les passerai généralement sous silence, car je ne m'occuperai ici que des lieux publics. Mais revenons au sujet. Ulpien nous apprend donc qu'il y a des lieux sacrés, non seulement la ville, mais aussi in agro, sur le territoire. La guerre était le territoire agricole et forestier qui entoure généralement la ville et constitue avec elle la civitas, la cité-état, comme j'ai dit. À Rome, nous l'avons vu, une réalité topographique bien plus complexe. Ulpien se réfère en tout cas directement à ce qui nous intéresse, à savoir au lieu de culte situé à l'extérieur de la ville, en banlieue ou à la campagne, comme nous dirions, et dont un certain nombre sont certainement des lieux de culte publics, d'après ce qu'il dit. Ces lieux appartiennent non pas à une communauté rurale ou à une villa, mais à l'ensemble des citoyens, à la cité, à l'État, comme nous dirions, et ils sont juridiquement publics, c'est-à-dire propriété du peuple romain. Loin d'être secondaire, je le répète, pour l'organisation religieuse comme peut l'être une église de banlieue ou de la campagne, ces lieux de culte possèdent le même statut que les temples qui entourent le forum de la ville et qui ornent les quartiers de celle-ci. Ils englobent en quelque sorte le territoire dans la communauté politique dont les temples sont les marqueurs. Nous y reviendrons constamment pendant ce cours. Il convient d'ajouter que dans l'ouvrage d'Ulpien, ou du moins dans les extraits qu'en contient le digeste de l'époque de Justinien, ces différentes définitions concernent uniquement la cité de Rome et son territoire. Un regard sur les traités des grammatici, des géomètres romains, confirme, s'il en était besoin, qu'il existait des sanctuaires publics sur le territoire, comme un certain nombre de vignettes de leurs manuscrits le démontrent. Vous voyez, vous avez ici la ville avec ses remparts qui est dans un paysage délimité par un fleuve, par une montagne, par là, ici ouvert sur une plaine, et vous voyez qu'aux limites du territoire, les géomètres indiquent deux temples. Les géomètres s'accordent également pour confirmer que sur l'Ager, sur le territoire des cités, il existait bien des lieux privés, des lieux publics et des sanctuaires privés. Les sanctuaires publics sont l'objet de la surveillance des autorités en Italie comme dans les provinces. Ainsi, le géomètre Frontin écrit « Il convient d'avoir un grand scrupule et une garde vigilante des lieux consacrés selon la loi du peuple romain. » Maintenant, vous êtes savant, vous savez ce que cela signifie. Ce sont des sanctuaires publics. Même les légats, les gouverneurs des provinces, ont coutume de ne rien considérer de plus important parmi leurs charges que de veiller à ce que les lieux qui sont sacrés, vous voyez comment ils jouent sur les termes, soient protégés. Ceci est plus facilement réalisé dans les provinces. En Italie, au contraire, la densité des propriétaires conduit à beaucoup d'actes malhonnêtes et se traduit par l'occupation de bois sacrés dont le sol appartient sans le moindre doute au peuple romain, même s'il se trouve aux frontières de colonies et de municipes. À ce sujet, il existe d'habitude des conflits qui ne sont pas négligeables entre les cités et les particuliers. Frontin insiste sur le fait que la protection des lieux de culte public est plus facile à assurer dans les provinces qu'en Italie, où la densité des propriétés donc fait que les propriétaires ont tendance à occuper de façon plus ou moins indue des lieux sacrés, voire des bois sacrés dont le sol et les murs appartiennent au peuple romain. La formule du géomètre est en fait ambiguë, car elle semble impliquer que le peuple romain possédait des bois sacrés partout en Italie, puisque celle-ci fait partie de l'Ager romane à l'époque de Frontin, c'est-à-dire sous Domitien, dans le dernier quart du 1er siècle de notre ère. La formule n'est d'ailleurs pas si imprécise que cela. Nous verrons qu'en Italie, il peut exister des lieux de culte proprement romains, romains au sens étroit, partie de la ville de Rome même. Mais nous verrons cela. Mais on peut bien entendu aussi supposer qu'il s'agit d'une extension des règles au-delà des frontières de Rome et que le texte parle ici du peuple des différentes cités d'Italie ou des provinces, parce qu'il est évident que ces manuels, valables d'abord pour Rome, ont en permanence été réutilisés par les géomètres pour le monde entier. Donc il y a un certain flou, mais le noyau des constitutions, des décisions et des textes concerne Rome. Frontin nous apprend aussi que cette invasion des espaces sacrés se fait même lorsque les bois sacrés se trouvent aux frontières des colonies ou des municipes, c'est-à-dire à un endroit généralement très surveillé et où la cité veut manifester sa présence et couper court à toute contestation de ses frontières. Ailleurs, les grammatici, les géomètres, insistent sur le fait que ces limites sont généralement marquées par des autels ou des bois sacrés, comme vous voyez sur cette autre vignette. Je vous montre aussi ce texte-ci où il montre que tout cela, les plans de ces bâtiments existent dans les cadastres publics et qu'on ne peut pas tricher. Voici la vignette où vous voyez un joli territoire de cité, cette fois-ci de façon schématique, dans ces divisions préalables du territoire pour les constructions, pour les attributions. Et vous voyez qu'aux deux, extrémités, vous voyez per extremitatem, etc., vous avez deux autels qui sont dressés pour marquer la limite. Et ce que nous apprenons aussi dans ce texte et dans les textes précédents, notamment dans celui-là, vous voyez qu'on parle de temples ou de bois sacrés aux finesses, aux limites des colonies ou des municipes. C'est-à-dire qu'il y a des frontières. Les géomètres au 1er siècle de notre ère citent ces frontières. Les cités se battent à propos des lieux de culte de ces frontières. Dans le même passage, il cite un temple de Minerve entre Sousse et une autre cité dans la Tunisie actuelle qui se contestait en permanence la propriété entre pour ce temple. Et c'était une querelle permanente. Donc, quand on lit aujourd'hui qu'il n'y a pas de limite de cité, quand on dit que ces lieux de culte n'ont rien à voir avec l'organisation du territoire, des textes théoriques comme ceux des juristes ou normatifs vous montrent tout de suite qu'il existait bien une réalité comme cela. Vous avez vu en même temps que cette réalité, si nous revenons à notre sujet, Rome, le centre du monde de l'époque, devient extrêmement ardu, puisque ce territoire de Rome, qui dans la cité de Lutèce était simple, on voyait, il y avait même sans doute des bornes et des stations de taxes pour entrer sur le territoire, c'était simple à voir. À Rome, on a l'impression qu'il bouge, qu'il est flexible, qu'il y a plusieurs limites, et c'est cela qui va nous retenir cette année. Et nous entrerons dans le vif du sujet en commençant par la limite du premier mille la fois prochaine. Je vous remercie.